Et voilà, vous êtes toujours dans les oreilles, loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou rfpp.net. On va donc aborder maintenant le dossier de cette émission. Donc on accueille aujourd'hui Julien Dedoni, bonjour.
Bonjour.
Qui est géographe, qui est doctorant et qui connaît très bien, c'est à peu près le seul Français en France, non, quasiment, c'est un des très rares Français.
On doit quelques centaines quand même.
Quelques centaines, d'accord.
En recherche, on a beaucoup moins, ouais.
On en a quand même trouvé un, hein, c'est pas mal. Enfin, celui qui nous a trouvé plutôt, merci. Hein, qui va nous parler donc du Sahara occidental. Donc on va développer tout ça après. Le Sahara occidental, c'était une ancienne colonie espagnole. Et en 1976, on réexpliquera plus tard, les Espagnols ont décidé de partir. On ne peut pas vraiment parler de décolonisation, parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance proclamée ni quoi que ce soit. Et depuis 1976, donc, le territoire est disputé par, d'une part, le Maroc, qui le revendique au nom d'un grand Maroc, et d'autre part, les Sahraouis, et notamment le Front Polisario. Donc peut-être, Julien, pour commencer, tu pourrais déjà nous situer ce territoire, à mon avis, que peu de personnes savent mettre sur une carte. Et puis après, aborder justement cette question de quel est le statut du territoire aujourd'hui.
Alors c'est d'autant plus difficile à mettre sur une carte que les cartes qu'on voit en France, pour beaucoup, représentent le Sahara occidental comme déjà inclus dans l'État marocain. Ce qui, juridiquement, est faux, parce que pour l'ONU et depuis 1963, le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome en voie de décolonisation. Géographiquement, le Sahara occidental, c'est un territoire de 266 000 km², soit la moitié de la France, c'est pas rien, soit à peu près le Maroc aujourd'hui, ce qui explique aussi peut-être pourquoi le Maroc, pour partie, s'y accroche. Ce territoire est situé donc juste au sud du Maroc. Il est frontalier un tout petit peu avec l'Algérie sur une quarantaine de kilomètres à l'est, et tout le reste de la frontière est et sud l'est avec la Mauritanie. C'est un, comme son nom l'indique, on est en plein Sahara, enfin on est sur une marge saharienne coincée entre l'océan Atlantique et le Sahara. C'est un territoire aride, il n'y a pas de fleuve pérenne, comme on dit, donc à écoulement continu tout au long de l'année. Et l'herbe y pousse quand la pluie veut bien tomber. Aujourd'hui, le Sahara occidental, c'est grosso modo 250 000 habitants. Je dis ça, c'est le chiffre le plus souvent avancé. Après, les estimations vont de 100 000 à 600 000. Comme tout territoire en conflit, c'est un peu difficile à estimer. Et donc, j'ai dit que juridiquement, c'était un territoire non autonome en voie de décolonisation. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, le Sahara occidental est divisé en deux. Il y a une partie à l'ouest qui est administrée par le Maroc depuis donc le retrait de l'Espagne en 1976. Cette partie représente à peu près les 4/5 du territoire. Donc le Maroc qui pratique ce qu'on peut qualifier d'une politique de colonisation de peuplement. Et le 5/5 restant qui est à l'est, une toute petite bande totalement désertique du coup, puisqu'on est à l'est, et occupée aujourd'hui par l'armée sahraoui et le Front Polisario. Petite précision, la partie ouest, c'est là où sont concentrées toutes les richesses du territoire, c'est-à-dire principalement les phosphates. Il y a aussi sûrement du pétrole. L'exploitation n'est pas encore commencée, mais il y en a sûrement. Et il y a aussi une part importante, une donnée importante de ce conflit, c'est toutes les richesses liées à la mer et principalement à la pêche qui sont donc sur le littoral atlantique.
Mais donc, tu nous parlais tout à l'heure des habitants du territoire, des ressources, etc. Est-ce que les deux parties, la partie qui est occupée par le Maroc et la partie qui est occupée par les Sahraouis, est-ce qu'il y a la même utilisation du territoire qui est faite, le même habitat, etc., etc.
Pas du tout, parce que les Sahraouis, pour beaucoup, se sont réfugiés en Algérie, en plein ouest algérien, près de Tindouf. On dit que le Sahara, c'est un milieu difficile. Dans le Sahara, c'est pas homogène. Il y a des parties encore plus difficiles, qui sont les Hamada, donc des plateaux rocailleux où il y a vraiment, pour le coup, aucune végétation. Et c'est là donc que sont réfugiés. Alors, pareil pour les chiffres, il y a des estimations, mais on dit souvent 120 000 réfugiés qui sont aujourd'hui donc dans ces camps en Algérie. Il y aura quelques Sahraouis qui nomadisent côté donc au Sahara occidental, côté occupé par le Front Polisario. Et le reste, donc il y a des Sahraouis et des Marocains qui vivent aujourd'hui au Sahara occidental. Donc le Maroc a pratiqué une politique de développement très poussée de ce qu'il appelle ses provinces sahariennes. Donc il y a des villes comme Laayoune ou Darla ou Smara qui ont connu vraiment un réel développement économique. Des villes à l'instar des autres villes marocaines. Côté Sahraoui, ce qu'ils appellent la capitale du Sahara, donc du coup les Sahraouis appellent ça les territoires libérés par opposition à ce qu'ils appellent les territoires occupés. La capitale donc, entre guillemets, c'est Tifariti. Et Tifariti, la première fois que j'y suis allé, j'étais surpris. Ça se résume à un hôpital qui est vide par peur des bombardements, parce qu'on a un cessez-le-feu, mais cessez-le-feu, c'est pas la fin de la guerre, ça peut toujours reprendre. Il y a une école qui est vide pour les mêmes raisons. Il y a des ruines du village espagnol qui était là avant, donc qui ont été bombardées pendant la guerre entre 76 et 91. Et le seul lieu qui... où il y a de la vie continuellement, c'est la base de la mission des Nations Unies au Sahara occidental. Sorti de ça, de temps en temps, quand il pleut, ça arrive quand même, les réfugiés sahraouis ont tendance à sortir du camp pour passer quelques semaines dans les territoires libérés, comme ils les appellent. Donc ils y vont avec... ils y renouent avec un certain mode de vie traditionnel, avec les tentes et les troupeaux de chèvres. Et donc là, on peut rencontrer beaucoup de monde. Moi, quand j'y suis allé, la première fois, il y avait deux tentes.
Oui, d'accord.
Donc peut-être quand même présenter le conflit en question de manière un peu plus approfondie, c'est-à-dire on est donc en territoire espagnol en 1974-75. Déjà au Sahara occidental, il y a des velléités indépendantes vis-à-vis du colonisateur espagnol. Donc il y a une petite résistance qui se met en place et à ce moment-là, on apprend que Franco se meurt en Espagne et que le régime va changer et certainement sa politique. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se met en place entre la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne dans la succession au territoire sahraoui et qu'est-ce que fait à ce moment-là les résistants indépendantistes?
D'accord, donc on va se situer alors en 74, ça fait déjà à peu près, on va dire, 15 ans que le sentiment nationaliste sahraoui se diffuse et se formalise, surtout à partir de 1970. Des manifestations ont lieu donc dans les villes du Sahara, alors espagnol. Et l'Espagne, qui est pressée par l'ONU et par des États tels la France ou les États-Unis, a engagé un processus d'autodétermination conforme à la résolution 1514 des Nations Unies relative à l'autodétermination des peuples, qui a permis donc à de nombreux peuples africains, asiatiques et tous les peuples colonisés par les pays du Nord, comme on dit aujourd'hui, d'acquérir leur indépendance. Donc en 1974, le processus est en marche, un recensement est effectué, recensement de la population sahraoui, qui estime la population à 74 000 habitants. Ce référendum est prévu, il est sur le calendrier. Sauf que le Maroc, pour tout un tas de raisons, lance ce qu'il appelle la marche verte fin octobre 1975 et pénètre au Sahara occidental le 6 novembre 1975. La marche verte, c'est 350 000 personnes marocains. Et donc il y a toute une mise en scène. Hassan II, et donc le roi du Maroc à cette époque, était un fin stratège. Il y a toute une mise en scène avec des drapeaux musulmans, les Corans. C'était la nation marocaine qui allait parachever son intégrité territoriale. Sauf que cette marche verte, elle empêche la tenue du référendum. Et pendant que les Marocains pénètrent au nord, il y a les Mauritaniens qui pénètrent par le sud, en vertu d'un accord secret passé entre le Maroc et la Mauritanie quelques mois auparavant. Et cette invasion est mise sur papier et acceptée par l'Espagne par les accords dits de Madrid en novembre 1975. Précisément, donc c'est les accords de Madrid. Ces accords de Madrid, donc du 14 novembre 1975, partagent donc le Sahara à la rencontre espagnole entre un nord marocain et un sud mauritanien. Et l'Espagne est censée se retirer d'ici au 28 février 1976. Ce qu'elle fait dès le 26 février 1976, mais entre-temps, donc l'invasion, donc la marche verte qui est souvent présentée comme étant pacifique, elle est aussi accompagnée d'une marche beaucoup moins pacifique, qui est militaire. Donc il y a des accrochages avec l'armée algérienne au début, puis avec l'armée sahraoui. Et les sahraouis, à ce moment-là, donc les sahraouis qui revendiquent leur indépendance et le nationalisme sahraoui commencent à se réfugier en Algérie. À peu près sur les 74 000 sahraouis, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, le Haut Commissariat, pardon, réfugiés de l'ONU, en dénombrera 50 000, soit les deux tiers de la population qui est partie donc en Algérie à ce moment-là.
C'est-à-dire que dès ce moment-là, en fait, l'Algérie prend part dans ce conflit. Peut-être qu'on analysera un peu plus tard, on parlera un peu plus tard du rôle assez fondamental, justement, de l'Algérie. On reviendra sur les camps de réfugiés qui sont installés là-bas. Mais dès le début, en fait, l'Algérie est un des acteurs du conflit au Sahara occidental.
Il y a cette rivalité historique entre les nationalismes maghrébins en général et particulièrement entre les nationalismes marocains et algériens. Il y a une guerre entre les deux pays en 1963, exactement dans la région où sont aujourd'hui les camps de réfugiés sahraouis, à Tindouf. Et l'Algérie a longtemps joué un jeu un peu flou au début des années 70. Et à cette époque, c'était Boumediene qui était président. Boumediene était plutôt partisan de la solution forte avec le Maroc, contrairement à son ministre des Affaires étrangères, qui est à l'époque Abdelaziz Bouteflika, actuel président de la Ligue de l'Algérie. Et pour diverses raisons, donc, l'Algérie a décidé de s'opposer au Maroc et de soutenir les Sahraouis. Une idée fausse souvent qu'on peut entendre, c'est de dire que l'Algérie a créé le Front Polisario, ce qui est rigoureusement faux. Le Front Polisario a été créé en 1973. Et a tout de suite été soutenu par contre par la Libye de Kadhafi. Et plusieurs thèses disent que l'Algérie est venue à soutenir le Front Polisario, d'une part parce que le Front Polisario mettait pression sur le territoire algérien, il pénétrait allègrement, tout comme en Mauritanie, pour préparer donc des actions sur le Sahara, alors encore espagnol. Donc ça, c'est une première raison qui a poussé l'Algérie à soutenir le Front Polisario. Et il y a aussi donc l'Algérie craignait une mainmise de la Libye de Kadhafi sur le mouvement sahraoui. Donc... Puis après, il y a des raisons donc, bilatérales entre le Maroc et l'Algérie qui ont amené l'Algérie à soutenir le Front Polisario sur le plan diplomatique, militaire au début, donc par la formation militaire et par la fourniture de matériel et sur le plan humanitaire.
Et après, donc, on arrive plus tard, on arrive en 79, on reviendra sur la définition du Front Polisario, etc. En 79, la Mauritanie, qui était un des acteurs auparavant du conflit, en sort, quoi, puisque la Mauritanie décide de se retirer du souris. Tu veux préciser davantage ?
Un peu contrainte, quand même.
Un petit peu contrainte, quand même. Donc, en 76, donc, le Front Polisario et donc l'armée sahraoui, c'est deux facettes du même mouvement. Donc, l'armée sahraoui fait face à un double front, marocain au nord, mauritanien au sud. Assez logiquement, elle choisit donc de mettre l'accent sur le front qui lui semble le plus fragile, donc le front mauritanien. Et oublions les considérations morales, parlons d'efficacité militaire. Il faut reconnaître que l'armée sahraoui a fait preuve de plusieurs coups d'éclat. Ils sont allés jusqu'à pénétrer dans la capitale Nouakchott en 1976 avec 400 ou 600 hommes. Ils ont tenu le palais du gouvernement pendant quelques heures. Alors, à la Nouakchott, d'où ils partaient, ils ont pénétré sur 400 km en territoire mauritanien. Ça s'est soldé par un échec, mais ils ont continué à porter l'effort sur l'appareil économique mauritanien. C'était plutôt relativement facile à l'époque, sans vouloir caricaturer le propos quand même. L'économie de la Mauritanie à cette époque était pour une grande partie liée à la mine de fer de Zouerat, qui est relié à l'Atlantique, donc pour évacuer le minerai de fer par un train. Et donc le Front Polisario a régulièrement attaqué les mines de fer et le train qui est relié à l'Atlantique. L'économie de la Mauritanie a été mise à mal et il faut aussi noter qu'une large partie de la population mauritanienne est morte d'origine, tout comme le sont les Sahraouis. Donc les familles sont pour beaucoup se sentent pour beaucoup Sahraouis et mauritaniennes, ou mauritaniennes et Sahraouis, voire 50-50 entre les deux. Donc il y avait aussi une pression de l'opinion publique qui était contre cette guerre qualifiée de fratricide. Donc pour l'économie, pour la pression de l'économie, pour la pression de l'opinion publique, la Mauritanie se retire donc du conflit en 1979, après un petit coup d'État en route, en 78.
À ce moment-là, le territoire qui était auparavant occupé par la Mauritanie, qu'est-ce qui devient ?
Eh bien, ce territoire est tout de suite occupé par le Maroc, qui a été plus rapide que le Front Polisario pour l'occuper.
Que le
Et voilà, vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur FPP. On est toujours avec Julien de Denis. On vient de faire un rapide historique des débuts du conflit en fait sur le Sahara occidental. Peut-être que c'est le moment de faire le point sur les différents acteurs de ce conflit. On a parlé abondamment déjà du Front Polisario et peut-être en venir à préciser justement ce qu'est le nationalisme sahraoui qui s'est développé, qui a donné naissance au Front Polisario ensuite.
Oui, voilà, parce que quand on parle des acteurs, donc on parle de personnes physiques palpables, mais ces personnes agissent au nom de nationalisme. Ici, c'est clairement une question de nationalisme. Le nationalisme marocain qui s'oppose au nationalisme sahraoui. Le nationalisme sahraoui, donc on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Le Front Polisario, c'est donc affirmé comme le mouvement nationaliste le plus largement reconnu. C'est ce qui ressort entre autres d'une mission de l'ONU envoyée sur place en mai-juin 1975. Ce front, il a été créé, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, le 10 mai 1973 et est passé à l'action armée contre l'Espagne à ce moment-là, 10 jours plus tard. À la base, donc, le Front Polisario se réclamait de l'idéologie tiers-mondiste, de l'idéologie léniniste-marxiste. On en voit encore aujourd'hui des héritages par des liens assez forts avec Cuba et de plus en plus avec le Venezuela d'Hugo Chavez. C'est un mouvement, donc à l'issue, les créateurs du Front Polisario sont donc des Sahraouis qui ont fait leurs études dans les universités marocaines, qui ont donc formalisé cette idée de nation sahraoui et qui ont donc commencé par mener la lutte armée. Et quand s'est donc fait cette double invasion maroco-mauritanienne, le Front Polisario a pris en charge le volet organisationnel des camps de réfugiés, tout en menant donc ce combat militaire dont on a parlé, et en parallèle, parce que le militaire, c'est pas une fin en soi, c'est surtout un moyen de pression pour arriver au terrain politique. Donc le Front Polisario a aussi donc mené cette lutte politique dans les différentes instances que sont l'Organisation de l'Union africaine ou l'ONU.
Et auprès d'États sympathisants aussi à leur cause
Bien sûr. Entre les...
Il y a eu un front de solidarité, il y a eu un mouvement de solidarité qui s'est porté sur cette cause sahraoui assez rapidement, je crois. Non, c'est...
Le soutien algérien a été rapide, donc à partir de fin 1975. Il a été constant jusqu'à maintenant. Paradoxalement, la population algérienne est assez peu au courant. Moi, quand je vais en Algérie, que je descends dans les camps, quand je passe en Algérie avant, que je dis que je vais à Tindouf, les gens me demandent ce que je vais y faire, je dis que je vais dans les camps sahraoui, et ils ont l'air pas plus au courant que ça. Mmh. Les Algériens en France sont plus au courant, bizarrement. Et donc, il y a une solidarité, par contre, de l'État algérien. Donc, j'ai dit tout à l'heure, donc sur trois plans principaux, sur le plan militaire par la fourniture de matériel, sur le plan diplomatique, parce que donc, le Front Polisario a longtemps été seulement un mouvement politique, donc pour être reconnu par la communauté internationale, il fallait avoir un relais qui était un État, donc l'État algérien, qui a permis de relayer la voix sahraoui au sein de l'Organisation de l'Union africaine et au sein de l'ONU. Et le soutien algérien se porte aussi donc, sur les aspects humanitaires, donc dans les camps de réfugiés. Et chose, je pense, unique au monde, l'Algérie a concédé au Front Polisario un espace grand comme un département français pour qu'il soit établi les camps sahraouis, qui sont gérés, c'est une chose assez exceptionnelle encore, comme un État. C'est un état, donc l'État sahraoui, on n'a pas encore parlé, c'est la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, qui a été créée le lendemain du retrait de l'Espagne du territoire du Sahara occidental, donc le 27 février 1976. Elle revendique donc le Sahara occidental, cette RASD, et en attendant de recouvrer ses frontières, si on se pose donc dans cette perspective-là, la RASD gère son espace provisoire, qu'est l'espace des camps, qui lui est alloué par l'Algérie. Donc l'espace des camps sahraoui, c'est une véritable enclave étatique sahraoui au sein du territoire algérien.
Peut-être qu'on développera plus tard sur les camps de réfugiés, justement sur cette question-là qui est vraiment intéressante à développer, parce qu'effectivement, c'est un cas très très rare, quoi. Enfin oui, unique au monde, comme tu disais.
À ma connaissance,
mais,
en tout cas.
Voilà. Mais justement, la RASD, quelle est... peut-être que si on continue sur les liens entre cet État sahraoui en exil et les autres pays du monde. Déjà, qui reconnaît, enfin, quels sont les pays qui reconnaissent l'existence de cette république ?
Alors, avant d'entrer là-dedans, un tout petit point de détail. D'après ce que j'ai compris du droit international, un État qui reconnaît un État ne peut pas retirer sa reconnaissance. Par contre, il peut la geler ou la suspendre. Donc, aujourd'hui, on reconnaît que 82 États reconnaissent l'Arasd de par le monde. Ces États, ce sont surtout des États qui, au moment de l'idéologie tiers-mondiste, étaient tiers-mondistes. On retrouve donc tout d'abord l'Algérie, la Libye, et pour finir, enfin, en Afrique, pour finir sur le terrain africain, il y a 22 États qui reconnaissent la République sahraoui.
Et l'Union africaine
Et l'Union africaine reconnaît la RASD depuis 1982, ce qui a entraîné le retrait du Maroc de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est rigolo, ce n'était pas l'Union africaine, c'était l'organisation de l'Union africaine. L'Union africaine a été créée au début des années 2000, donc la RASD est membre fondateur, alors que le Maroc n'en fait pas partie. Ça, c'est pour l'anecdote. Et pour finir sur le terrain africain, il y a aussi un autre pays important qui reconnaît la RASD depuis assez peu de
2004,
temps.
2004, je crois.
Pardon ?
2004, je crois.
L'Afrique du Sud ?
Oui.
Voilà. Donc l'Afrique du Sud. Sinon, les autres pays du monde, c'est surtout en Amérique du Sud qu'on retrouve les soutiens les plus forts, c'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, Cuba et le Venezuela.
Et ça s'est manifesté matériellement, leur soutien, ou c'était juste un soutien diplomatique pour faire pression au niveau international sur, bah, justement, sur le Maroc et...
Ça dépend des pays. Le soutien matériel de l'Algérie est manifeste.
L'Union soviétique à cette époque fournissait des armes
Pas du tout. L'Union soviétique aurait bien voulu rester en dehors de ce problème, mais ses armes se retrouvaient dans les mains sahraouis via les canaux algériens et libyens. Mais l'Union soviétique, contrairement à l'idée reçue aussi, on dit souvent que le conflit du Sahara occidental est un héritage de la guerre froide. Personnellement, je ne pense pas du tout, quand on sait que dans les années 80, le Maroc. L'Union soviétique avait plus de rapports avec le Maroc qu'avec l'Algérie, et l'Algérie avait plus de rapports avec les États-Unis qu'avec l'Union soviétique.
Oui, parce
Donc on ne peut pas dire que ça soit...
Parce que dans la plateforme du Front Polisario, il y a une dimension donc indépendantiste, mm-hmm. mais au niveau des revendications territoriales, enfin juridictionnelles, il y a une amorce de constitution. Qu'est-ce que dit...
Il y a une constitution qui a été révisée, et à la base, c'est un mouvement donc, d'idéologie clairement léniniste-marxiste. Maintenant, il me semble que dans la constitution de la RASD, d'après sa dernière révision, il se positionne plus sur le libéralisme économique. Le mur est tombé entre-temps. La RASD est surtout donc, dans la recherche de soutien qui ont du poids. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle se reconnaît plus donc, dans des états d'idéologie qui s'opposeraient plutôt quand même au libéralisme. Quand le soutien disons, montant aujourd'hui, c'est le Venezuela.
Parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est que la lutte qu'ils ont menée, la lutte armée qu'ils ont menée, a échoué à partir du moment où le Maroc a mené une stratégie différente en érigeant un mur, c'est ça ?
Voilà, on a parlé donc d'une première partie de la guerre qui est plutôt un succès donc, pour les Sahraouis avec la chute de la Mauritanie. Mais le Maroc, donc, c'est un peu enlisé dans les années 79, 80, 81. Il y avait de grosses victoires sahraouies à ce moment-là. Et le Maroc, donc, conseillé par des conseillers israéliens, a édifié plusieurs murs au Sahara occidental, d'où aujourd'hui donc, cette situation qu'on a évoquée en introduction, de Sahara divisé en deux. Ouais. Aujourd'hui, le mur externe donc, qui sépare les...
Non, mais faut expliquer peut-être ce que ça représente, parce que c'est un mur qui traverse le désert en deux.
Voilà, c'est un mur de 2700 km de long, qui en soi n'est pas tellement impressionnant. C'est une butte de 3 mètres de haut en sable, mais ce qui est impressionnant, c'est que tous les 3 km à peu près en moyenne, il y a un petit fort avec 150 hommes dedans. Devant le mur, alors là, c'est des estimations encore, il y a entre 1 et 5 millions de mines antipersonnelles, antichars. Toujours devant le mur, il y a des barbelés. Sur le mur, il y a des batteries de canons. Sur le mur, toujours, il y a des radars. J'y reviendrai d'ailleurs après, il y a une petite anecdote croustillante. Et derrière le mur, il y a des batteries d'artillerie mobile. En tout, donc, le Maroc mobilise 160 000 hommes depuis plus de 20 ans.
Colossal.
Colossal, surtout à l'échelle de ce pays, donc pour un coût énorme, entre autres. Et donc... le Maroc est en état de guerre. Ça, quand on mobilise 160 000 hommes sur une frontière, on peut parler d'état de guerre. Et je vais juste dire par rapport au mur, une petite anecdote. Au nom de la lutte contre l'immigration clandestine, l'Union européenne a fourni quelques subventions au Maroc pour qu'ils s'achètent des radars. Et ces radars, où ils sont posés, donc sur la frontière marocaine, donc sur le mur. Donc il y a une utilisation un peu critiquable de cette subvention européenne. Enfin, critiquable à double sens d'ailleurs.
Toujours dans les oreilles loin du front, je crois qu'on écume le CD Desert Rebel, qui est, voilà, exactement, c'est celui-là, qui est une compile de musique de rebelles du désert, donc si j'en crois le titre. Donc on est toujours avec Julien Dedenis pour parler du Sahara occidental. Guillaume.
Donc juste avant la petite pause, là, on était en train d'expliquer que... Le Maroc donc avait édifié un mur et en fait la construction de ce mur a changé de façon importante l'orientation stratégique qu'a mené le Front Polisario pour défendre ses ambitions d'indépendance.
Totalement, parce que donc comme je disais, le mur a été construit suite au constat par le Maroc qu'il perdait pied sur le terrain militaire et juste pour préciser, le Maroc poursuivait donc une stratégie de défensive, d'occupation de place, donc avec mise en place de bastions défendus. Et le Front Polisario, au contraire, donc, on estime, donc ses effectifs, c'est toujours pareil, hein, niveau données chiffrées, c'est très très dur. On estime ses forces entre 10 000 et au plus fort à 30 000 hommes. Petite précision aussi, on imagine souvent le Front Polisario sous des Land Rover avec des Kalachnikov dans le meilleur des cas. Ils étaient quand même relativement bien armés, ils avaient des colonnes de blindés, donc de tanks, donc T-54, T-55 pour les connaisseurs. Ils avaient aussi des batteries de missiles SAM-6 pour descendre les avions marocains. Donc la stratégie du Front Polisario, c'était donc de mener des attaques de harcèlement. Ils arrivaient sur une place, c'était des raids, ils restaient le moins de temps possible, ils repartaient avec le plus de matériel possible aussi, parce que vu leur situation, il fallait collecter du matériel et des munitions, ils repartaient donc avec les prisonniers et les armes. Donc il faut se mettre dans la place d'un soldat marocain. Le soldat marocain, il est à attendre une attaque. Il ne sait pas quand, il ne sait pas à quel moment, il ne sait pas comment. Et les Sahraouis, eux, choisissaient le moment de l'attaque. Donc niveau efficacité militaire, c'était très efficace. Donc le Maroc a construit ces murs-là pour bloquer la route au front Polisario, ce qui a été très efficace et qui s'est soldé donc par un enlisement de la guerre, par des percées donc quand même de l'armée sahraoui qui a réussi à percer le mur quelques fois, mais c'est difficile après de revenir en arrière dans leur base arrière. Donc le conflit militaire s'est un peu enlisé et il a fallu passer à une seconde phase qui est la phase donc plus politique. Les deux parties ont accepté de s'asseoir à la table des négociations sous l'égide de l'ONU et on finit donc par signer un plan de paix. Donc commencé par l'accepter en 1988, ce plan de paix a été mis en place à partir du 6 septembre 1991. Ce plan de paix, il prévoit notamment la tenue du référendum d'autodétermination, qui est vraiment le nœud du problème, qui n'a pas pu se réaliser donc en 1975, et qui est donc remis au goût du jour en 1991.
L'Arlésienne du conflit.
Pardon ?
L'Arlésienne du conflit.
Tout à fait. Ah oui, ça, c'est le fil rouge. Donc, ce référendum est donc programmé donc, en 91 pour le début 92. Et donc, les deux parties, en attendant le référendum, ont signé un cessez-le-feu qui, depuis donc, le 6 septembre 1991, est globalement respecté. Il y a eu quelques...
échauffourées ?
Non, pas des échauffourées directes, mais quelques petites pénétrations de part et d'autre. Mais disons de manière équilibrée de côté, mais c'est un cessez-le-feu qui est respecté, d'après les termes donc, de la mission des Nations Unies, qui est sur place, qui est la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Donc, c'est dans le titre, hein, c'est la MINURSO. Donc ce référendum, avant qu'il ait lieu, il fallait établir des listes de votants. C'est là où est le gros problème. C'est que bah, entre le recensement effectué par les Espagnols en 1974, donc qui recensait 74 000 Sahraouis, 75 000, j'ai un petit doute, et la situation d'alors au Sahara occidental, il y avait entre-temps beaucoup de Marocains qui étaient venus s'installer. Donc il a été trouvé un compromis. Il fallait que les listes soient remises à jour, sauf que la remise à jour n'était pas entendue de la même façon par le Front Polisario et par l'État marocain. Ce qui a entraîné un blocage donc, du processus de recensement des votants. Et le plan de paix a finalement été abandonné à la fin des années 90. Après, il y a eu donc, de nombreux envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui se sont cassés les dents sur le problème. Une nouvelle série de plans a été proposée entre 2000 et 2003. Grosso modo, le Maroc proposait à lui d'accorder l'autonomie au Sahara occidental, ce qui pour le Front Polisario est inacceptable. Ils s'en tiennent au principe du référendum d'autodétermination. Et une solution intermédiaire avait été trouvée en 2003 par donc, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies à ce moment-là, qui était James Baker, qui est un diplomate des États-Unis assez renommé, qui avait donc trouvé ce plan-là, qui était donc d'accorder l'autonomie aux Sahraouis au Sahara occidental pour une période de 5 ans. Et au bout de 5 ans, il y avait un référendum d'autodétermination pour oui ou non l'intégration au Maroc, et sinon pour l'indépendance du Sahara occidental. Ce plan est accepté par le Front Polisario, qui, grosso modo, depuis le début, se montre très très confiant quant à l'issue de ce référendum en sa faveur. Et ben, par conséquent, il faut croire que le Maroc partage ce point de vue-là, le Maroc a refusé ce plan-là. Mmh. Donc il y a eu un nouveau flou pour en arriver à la situation actuelle donc d'il y a quelques jours, où le Maroc a proposé un nouveau plan d'autonomie pour le Sahara occidental, qui mérite d'être discuté. Et en réponse, le Front Polisario a proposé un nouveau plan, préconisant toujours le référendum d'autodétermination, mais en y incluant trois options. Donc, selon la vision du Front Polisario, le collège électoral, donc, qui comprend des Sahraouis et des Marocains installés depuis au Sahara occidental, aurait à voter sur ou bien l'indépendance totale du Sahara occidental, ou bien l'intégration au Maroc, ou bien l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre de l'intégrité du Maroc.
D'accord. Et donc ça, c'est le cadre général du conflit depuis donc, son début jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, intéressons-nous peut-être plus à la situation des Sahraouis en eux-mêmes. Qui sont-ils aujourd'hui? Quelle est leur situation générale? On a parlé donc, des camps, mais il y en a une grande partie quand même qui demeure sur le territoire occupé par le Maroc. Et le Maroc lui-même a fait venir beaucoup de Marocains. Quelle est la situation générale de la population sur ce territoire?
C'est pareil, alors si on veut des données chiffrées, c'est des
approximations. Au-delà des données chiffrées.
Des approximations,
c'est...
mais grosso modo, pour commencer donc par l'angle population sahraoui, il y a la population est grosso modo divisée donc entre une bonne partie qui vivent dans les camps de réfugiés en Algérie, donc sur cet espace donc géré par le Front Polisario comme un État en exil, donc la RASD en exil. Donc ça, c'est une partie de la population sahraoui. Une autre grosse partie de la population sahraoui vit donc au Sahara occidental, dans la partie administrée par le Maroc aujourd'hui. Une autre partie vit en Mauritanie.
Mais comment vivent-ils, en fait ? C'est ça,
comment vivent-ils ? C'est des situations très, très différentes. Les Sahraouis qui vivent aujourd'hui en Mauritanie, leur quotidien ne se différencie guère de celui des Mauritaniens qui vivent dans le désert. Donc... principalement vers Bir Mougrein, vers Zouerat ou vers Nouadhibou. La vie des réfugiés sahraouis, et c'est là où la situation est la plus critique. Donc, j'ai dit que c'était sur la Ramada de Tindouf qui vivent. C'est un milieu physique très, très difficile. Il est impossible d'y pratiquer l'agriculture. Il est impossible d'y faire paître les bêtes. Donc, ils sont totalement dépendants de l'aide internationale sur le plan alimentaire, mais plus largement sur le plan matériel. Le nombre de réfugiés est très difficile à estimer aussi. Le Front Polisario dit qu'ils sont 165 000. L'estimation basse va dire qu'ils sont 70 000. On s'accorde grosso modo sur le chiffre de 120 000, 130 000.
Ils ont un statut de réfugié ? Ils sont reconnus internationalement ?
Ils ont un statut de réfugié. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés est sur place. On croise des voitures de l'ONU tous les jours dans les camps de réfugiés. De nombreuses ONG sont sur place, parmi les plus importantes comme CARE ou Oxfam. C'est des camps de réfugiés au sens statutaire du terme.
Mais justement, comment est-ce qu'ils sont administrés ces camps ? Ce qui permettra peut-être d'aborder justement l'organisation actuelle du Front Polisario et de la lutte politique des Sahraouis.
C'est là où c'est particulier. Il y a d'autres camps de réfugiés, donc au sens statutaire du terme, de par le monde, qui sont administrés par les réfugiés, mais là, c'est un niveau... à ma connaissance, jamais atteint. Pour parler d'organigramme, la gestion de l'espace des camps, quand un projet est mis en place, c'est à la demande des réfugiés qui va... C'est très schématique, hein, ce que je dis. Donc, c'est les réfugiés qui vont vouloir mettre un programme en place. Ils vont en discuter. C'est un peu simpliste, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Ils vont en discuter avec le HCR. Le HCR va passer un appel d'offres auprès des ONG. Juste rappeler que l'humanitaire, c'est devenu un business. Donc, il y a un appel d'offres qui est passé auprès des ONG. Et ces ONG réalisent ce programme en partenariat avec l'État sahraoui. Et les relations qu'ont les ONG avec les réfugiés, c'est plus des relations d'ONG à État, donc sahraoui, que des relations d'ONG qui arrivent sur un terrain de l'humanitaire, comme on en voit ailleurs, où ils agissent sans trop se poser de questions.
Je fuis loin de la ville. C'est pas que c'est plus facile ou moins débile. C'est que la vie tient à un fil et que ça défile. Je me fais Manille ou les Antilles. Oui, je trace vers d'autres espaces. C'est que ma face est dans l'impasse d'un monde salace où les gens se lassent de n'être efficace que pour leur carcasse. Oui, avec les gens. Oui, dans les sentiments. Non, pas sédentaire, non, pas dans les affaires, oui, pour l'indépendance, oui, pour la non-violence, non, jamais dans la misère, et non, ne pas posséder de terre, oui, pour un autre mode de vie, oui, je prends le bon vent si je prends mon temps. C'est que j'aime les gens bien plus que l'argent. Et qu'à chaque instant, à chaque moment, même si tout se vend, tout ce que je prends, je le rends. Oui, je prends la route et coûte que coûte. Faut pas que je m'encroute, y'a aucun doute. C'est pas dans le shoot, dans la déroute. C'est sur les routes que la vie m'envoûte. La la la. La la la. La la la.
Voilà, toujours avec Julien de Denis à propos du Sahara occidental. Donc, pour terminer, puisqu'on approche de la fin de l'émission, aborder peut-être deux aspects, deux questions. D'abord, les débouchés politiques aujourd'hui, où en est-on des négociations? Est-ce qu'il y a des perspectives encourageantes pour ces populations, notamment ne serait-ce que indépendance ou pas, hein, chacun, enfin les deux acteurs ont des arguments, mais surtout sur la situation de ces réfugiés, sur ces populations déplacées. Et une autre question aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le poids qu'a pu avoir et qu'a toujours ce conflit pour le Maroc et comment la population marocaine le vit, l'accepte ou au contraire essaye de peser pour alléger justement ce fardeau de 160 000 hommes déployés depuis plus de 20 ans maintenant pour défendre ce territoire.
Donc pour ce qui est des négociations, donc la première question, c'est simple, il n'y en a pas, enfin pas officiellement. Tout le règlement se fait par relais, donc au sein de l'ONU, donc c'est ce que j'ai dit, les deux parties, donc marocaine et sahraoui, avaient présenté donc des plans sensiblement différents. Donc ces plans ont été déposés auprès du Conseil de sécurité de l'ONU au début du mois d'avril. Ce même Conseil de sécurité doit donc statuer vendredi prochain, donc c'est après-demain, doit donc statuer sur la suite à donner au conflit. Donc classiquement, le Conseil de sécurité reconduit la mission des Nations Unies qui est sur place. Elle le reconduit tous les 6 mois. Mmh. Et classiquement, donc, soit le Conseil de sécurité tient compte des deux plans, mais dit qu'il faut des négociations. C'est ce que le nouveau secrétaire général des Nations Unies a dit. En supposant donc, pour être clair, que le Conseil de sécurité reprenne les conclusions du secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a dit qu'il y avait deux possibilités, je cite, « soit une prolongation indéfinie de l'impasse, soit des négociations sans conditions préalables entre les parties, qui auraient pour objectif de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, permettant d'assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental ». Donc il semble que l'ONU soit toujours attachée à ce principe d'autodétermination. Après l'ONU, ça c'est ce que dit le côté bureaucratique de l'ONU, sauf que l'ONU, ce sont des États, et l'ONU, dans ce conflit, dans l'ensemble des conflits de son action, n'est que le reflet du rapport de force à l'échelle internationale des différents États.
Et donc pour peser, justement, donc il y a d'abord la population marocaine peut-être, et aussi les solidarités internationales qui pourraient se manifester en faveur de ce peuple sahraoui.
Pour peser pour les deux parties, l'important, c'est d'avoir le soutien des membres du Conseil de sécurité. Donc, c'est surtout des 5 membres permanents, entre autres la France et les États-Unis, bien sûr.
Et alors, la position de la France, justement ?
La position de la France est historiquement neutre. Ça, c'est la position très officielle, mais tout le monde s'accorde à dire que la France soutient le Maroc. Ça a été clairement le cas sous Giscard, qui, au nom d'accords de défense commun avec la Mauritanie, a engagé donc des forces armées contre les Sahraouis sur le territoire mauritanien. Donc, il y a eu des attaques d'avions marocains sur l'armée sahraoui. Et au Maroc, le soutien de la France est plutôt diplomatique. La France, d'après des diplomates sahraouis, a régulièrement bloqué des projets de résolution. Et la France constitue un relais très très puissant de la voix marocaine au sein du Conseil de sécurité. Le but du Maroc étant à l'ONU d'enlever cette référence à l'autodétermination pour arriver à une solution politique. Point. Grosso modo, on a l'impression que le Maroc les deux parties veulent que l'ONU soit impliquée dans la résolution du conflit. La différence étant que le Maroc voudrait bien s'affranchir de certains principes onusiens relatifs à l'autodétermination, tandis que le Front Polisario, lui, reste attaché à ces principes-là, puisqu'il joue en sa faveur.
Et la population marocaine, qu'en dit-elle ?
La population marocaine, elle est totalement convaincue de la marocanité du Sahara occidental, à savoir quand même que dans quelle mesure elle s'exprime librement. Il y a eu des progrès au Maroc, il me semble, sauf qu'au Maroc, dans l'avancement vers la démocratie, il subsiste 3 lignes rouges à ne pas dépasser, que sont le roi. Je connais aucun Marocain qui m'a fait une critique sur le roi. Donc le roi, premièrement, l'islam Et troisièmement, l'intégrité territoriale, soit le Sahara occidental ou la marocanité du Sahara occidental.
Mmh. Et quelle est la position du peuple sahraoui par rapport au peuple marocain, justement ? Est-ce qu'il y a des antagonismes violents ou est-ce que c'est une autre...
Le discours que j'ai toujours entendu, c'est ils différencient totalement le peuple de ses gouvernements. Moi, en tant que Français, arrivé dans les camps, la première fois, j'étais pas trop fier, mais ils m'ont tout de suite dit... Bon, après un petit sermon sur la position de l'État français qui soutient le Maroc, ils me disent « Non, mais on différencie le gouvernement du peuple ». Ils disent « Pour les Marocains, c'est pareil ». Et pour illustration, j'étais surpris, mon premier voyage dans les camps, c'était il y a 3 ans, et il y avait la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait un match entre le Niger et le Maroc. Moi, je pensais un peu bêtement que le Niger, vu qu'il y a une population nomade au nord, qu'ils allaient soutenir le Niger, et ben non, ils soutenaient le Maroc. Et j'ai vu sauter du bois quand le Maroc a marqué un but.
Vous voyez, comme quoi le football, hein, c'est quand même révélateur de...
Guillaume, il fallait qu'il la place, celle-là. Donc en fait, l'attaque, enfin, le Front Polisario, il s'attaque au palais marocain et pas au peuple marocain. Quoi.
Voilà, et au palais, ils vont parler du palais d'une manière... D'une manière très très péjorative en parlant du Marsen, soit le vieil appareil étatique marocain.
Bon, et puisqu'il nous reste plus que 2 minutes maxi, comme me le signale Pierre dans nos super oreillettes, hein, peut-être tu pourrais terminer, Julien, sur une note un petit peu positive sur ce conflit, enfin positive, je n'en sais rien, parler des solidarités qui se manifestent. Et voilà, quel est le soutien que reçoivent les Sahraouis actuellement?
Le principal soutien qu'ils reçoivent, c'est clair et net, c'est de la population civile espagnole. Il y a une culpabilité espagnole très très forte d'être partie comme ça a été le cas en 1975 avec les accords de Madrid. La population civile espagnole soutient très fortement les Sahraouis, au point que certains Sahraouis commencent à parler de néocolonisation. C'est un autre débat. Il y aurait 475 ONG espagnoles dans les camps de réfugiés sahraouis. D'après un Sahraoui, ça reste à vérifier. Mais c'est clair que sans l'opinion publique espagnole, peut-être qu'on n'entendra plus du tout parler. En France, on en a parlé dans les années 75-80. Il y a un soutien traditionnel, disons, du Parti communiste. Les autres partis restent assez mous. Le Parti socialiste soutenait fortement la cause sahraoui avant d'être au pouvoir en 81. Mais une fois en 81, au bout de quelques mois, ce que certains diront la ride politique a rappelé à Mitterrand que les intérêts de la France étaient au Maroc aussi et pas qu'avec les Sahraouis. Donc il y a eu un équilibrage et cette neutralité positive en faveur du Maroc s'est remise en place.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission animée par le Front de Libération de la Radio Libre. Alors ce soir, nous recevions le géographe qui fait de la géographie à la radio. C'est un tour de force. C'était Julien De Denis. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis ce soir, ensablé dans les dunes administratives, il y avait Juliette à ses côtés, avec un peu de sable dans les poches, un peu de sable dans la bouche. Il y avait Guillaume. Il y avait aussi Alexandrine. Et puis dans le rôle de l'ONU ce soir, il y avait Manuela. Et puis quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, que tu te demandes à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés, tu sais qu'il te reste le site internet loldf.org, où vous pourrez réécouter toutes les émissions, les chroniques, etc. que vous avez pu entendre chaque semaine dans cette émission. Et puis hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit, t'as tenu combien de jours? J'ai répondu, bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Alors je lui ai demandé son message. Il m'a dit, d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. Alors on vous laisse méditer là-dessus. Mais voici l'heure. D'écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.